Merci. Tout d'abord, je vous prie de me pardonner les imperfections inévitables du langage. Le français n'étant pas ma langue maternelle, et aussi du fait que je ne suis pas capable psychiquement de lire un texte préécrit. Il faut toujours que je travaille au moment même de parler. Alors j'étais, après l'intervention de M. Touraine, j'étais bien tenté de parler le russe. Le russe, pour moi, géorgien, étant l'espagnol. Alors, quand même, j'ai choisi un autre espagnol, qui est le français. Je parlais français. Je veux parler un peu des concepts qui se sont formés à moi sur la base de mon expérience de la jeunesse, mon expérience personnelle d'un homme qui s'est réveillé ailleurs qu'en Europe, qui a vécu dans un pays de province, et là il prenait conscience de soi-même, de son pays et de la culture. Et là, la leçon à tirer de mon expérience fait que j'avais un point d'observation privilégié pour voir les choses que l'Européen européen peut ne pas voir. Pour vous, les Européens, il y a trop de choses qui vont de soi, qui sont presque naturelles. On ne se rend même pas compte des fondements même de son existence. Et on n'a pas la conscience du fait que l'homme, c'est un effort suspendu dans le temps, l'effort constant de devenir homme. L'homme, ce n'est pas un état naturel, ce n'est pas un état de nature, c'est un état qui se crée continuellement. C'est-à-dire que mon expérience personnelle, qui m'a bouleversé et m'a formé pour toujours, j'espère, c'était la philosophie comme théorie de la création continue. C'est-à-dire la philosophie bien cartésienne, et il faut que j'avoue, c'est bien la culture ou la philosophie française qui m'ont formé mentalement. Et pour dire mon idée, j'utiliserai la définition que Pascal donne de l'amour. Il a dit une fois que l'amour n'a point d'âge, elle est toujours dans l'état naissant. Je dirais la même chose de l'identité européenne, que l'identité européenne n'a point d'âge, elle est toujours d'un état naissant. Et c'est ça la responsabilité de l'Europe, la responsabilité européenne devant soi-même. Dans ce sens, alors moi qui éprouvais le manque de quelque chose que je croyais fondamental pour devenir, me disait bien la nature de cela, de mon besoin. C'est-à-dire me permettait d'être plus conscient que l'Européen qui prend pour l'état naturel l'état européen. C'est-à-dire, à travers le manque, nous comprenons peut-être mieux, et c'est pour cela que je définis mon point d'observation comme point privilégié, nous comprenons mieux la nature de la société et de la culture européenne. Pour moi, la culture comme telle est le pouvoir ou la capacité de pratiquer la complexité et la diversité. Je souligne bien le mot « pratiquer ». La culture n'est pas le savoir. On est culturel quand on est capable de pratiquer la complexité et la diversité sans savoir tout, et sans pouvoir appliquer une idée ou un concept abstrait à sa réalité et à son action. Depuis la Renaissance, nous sommes irréversiblement modernes. Il faut se rendre bien compte à quoi on renaissait pendant la Renaissance. C'était la Renaissance de quoi ? Pour moi, cette Renaissance est le fondement même, ou le contenu même de notre modernité, se compose de deux éléments qui renaissaient justement pendant la Renaissance et devenaient irréversibles. Le premier élément est le monde gréco-romain, c'est-à-dire l'idée sociale ou civile, c'est-à-dire la foi peut une forme concrète sociale, une communauté concrète, peut réaliser dans la vie et sur la terre quelque idéal infini. C'est-à-dire qu'une forme finie puisse être porteur de l'infini. Alors c'est exprimé aussi par notre fondement romain qui est l'état de droit. Et dans ce sens, je peux percevoir mon pays comme, ici on a employé le terme post-colonial. Je dirais que mon pays, ou là où je suis né, est un paradoxe ambulant de l'ex-empire qui est en même temps post-colonial, dans le sens que mon pays n'a jamais vécu ce monde romain de l'état de droit. Deuxième élément, c'est l'Évangile, dans le sens de l'idée qu'il y a quelque chose dans l'homme, ce qui s'appelle la voix ou la parole intérieure. Et il suffit à l'homme d'entendre bien la voix de cette parole et de suivre pour que Dieu lui aide en route. Il faut marcher sans de soutien extérieur, suivant la parole intérieure, sans s'accrocher aux garanties, et avec ça apparaît l'ombre comme élément perturbateur, comme élément inquiétant, comme élément qui fait l'histoire. Pour moi, l'Europe est la forme où on voit bien que l'organe de la vie, l'organe que l'homme est l'histoire. C'est-à-dire la Renaissance, pour moi, c'était l'histoire comme organe de la vie. C'est ça que renaissait, et sur cela se basait l'articulation de la société civile. Nous, n'ayant pas le même corps développé, c'est-à-dire n'ayant pas la même complexité et structuration de la société civile, comprenons très bien que justement c'est ce soir qu'il faut avoir. Mais on peut avoir ça seulement d'une façon historique, c'est-à-dire commencer, se suspendre dans l'effort et, soutenant l'effort, attendre que les choses naissent dans l'espace circonscrit par cet effort même. Alors, il y a aussi la fatigue ou l'oubli de ses origines. On peut ne pas soutenir l'effort, et c'est ça le danger européen. C'est-à-dire, le danger européen est la fatigue du labeur historique. Incapacité de soutenir l'effort de ses propres fondements, de le faire renaître à chaque moment, être suspendu dans l'air sans garantie et sans hiérarchie. C'est-à-dire, quand je parlais de l'élément évangélique, je voulais parler de la distinction qui est propre à la culture européenne, la distinction nette entre le principe intérieur, foi dans tout et chacun, ce qu'on appelle le pouvoir du langage. Alors la distinction entre ce pouvoir du langage et la loi extérieure. Alors dans ce sens, pour moi, la culture européenne est anti-moralisante et anti-légaliste, parce que le pouvoir du langage, qui part du principe intérieur, est la chose la plus importante, la chose qui mène l'effort et la lutte humaine. Pour moi, la culture européenne est la première et peut-être la dernière réponse valable à la question si le changement dans le monde est possible. Alors, c'est-à-dire, si c'est possible que l'homme conditionné par les chaînes de cause et effet, par les chaînes déterministes, est capable de se hausser, faire une ascension et de réaliser dans des formes concrètes, imparfaites, l'infini, l'idéal de l'homme. L'homme, c'est toujours une créature en état de souffrir, et toute l'histoire peut se définir comme histoire de cet effort de devenir homme. L'homme n'existe pas, il devient. Par cela, je veux dire que vous, les gens de l'Ouest, et nous, les gens de l'Est, sont au même point historique. Le point historique ne coïncidant pas avec la suite des moments chronologiques. Pour moi, il se passe quelque chose de la même nature qui se fait voir par la Première Guerre mondiale, qui se fait voir par la Seconde Guerre mondiale. Nous vivons au même point où ces catastrophes sont nées. Il y a quelque chose qui se passe au fondement, dans le gisement de la culture européenne, et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui, et nous sommes devant le même danger et devant la même responsabilité. Comment je définirais cette responsabilité encore dans un autre sens? C'est bon, on en a déjà dit plusieurs fois, c'est la barbarie moderne, contemporaine, qui est le danger. Barbare est un homme sans langage. C'est bien la définition grecque du barbare. C'est quelqu'un qui n'a pas de langue. Mais c'est bien évident que les Perses et les autres autour des Grecs avaient la langue. Mais par langue, les Grecs entendaient un espace articulé de présence de tout ce que l'homme éprouve, veut et pense, et le roulement de ce que est l'homme sur l'agora publique. C'était le langage. Alors, comment nous pouvons être conscients du fait que l'homme seul devant le monde est nu, et il est l'homme seulement quand il y a cet espace rempli d'articulations langagières, de l'agora vivante, qui médiatise l'effort presque impuissant de l'individu devant la complexité de l'homme, et lui permet de formuler ses propres pensées, c'est-à-dire lui permet de penser ce qu'il pense. Et la passion fondamentale de l'homme étant de s'accomplir, faire naître ce qui est en état de naissance. Et c'est, je vous assure, et vous le savez très bien, c'est très difficile. Le plus souvent, l'histoire est le cimetière des naissances abortives, des velléités de la liberté, des velléités de la pensée, des velléités de l'amour, des velléités d'honneur, de l'honneur, les velléités de la dignité qui sont restées dans le limbe des âmes pas nées. Alors, cette expérience de non-naissance de quelque chose qui est moi-même, j'ai éprouvé à fond, et c'est mon expérience personnelle. Et par cela, je répète, j'ai compris que la passion de l'homme, c'est s'accomplir. Mais on ne s'accomplit, on s'accomplit seulement par l'espace langage, du langage, par l'espace articulé. Et c'est notre tâche à nous. On vient assez tard pour accomplir cette tâche. Mais j'utiliserai un mot de Valéry, Paul Valéry, qui disait que tout homme n'est pas dans l'homme. Et c'était justement mon idée, que la partie la plus grande de l'homme est hors de lui, dans cet espace dont j'ai parlé, et j'ai défini espace culturel du langage. Et j'ajouterai à cela que l'homme est très très long. Il faut avoir du courage et la patience de cet effort. Il faut suspendre les tâches européennes, soutenues par la vague et la force de l'effort, et attendre nous. Dans le même effort, je répète, l'homme est très long. Merci.